Comme il y a quelques dimanches, j'avais partagé, j'avais vraiment ressenti comme le Saint-Esprit qui voulait venir souffler pour nous montrer, j'essaie de me rappeler, venir souffler que le fait que le Saint-Esprit souffle, c'est pas forcément tout agréable, mais ça aussi, ça nous montre aussi des choses qui, ça, comment on dit ça, qui viennent à la lumière, voilà, ça dérange parfois, mais que c'est des choses qu'on doit peut-être enlever dans notre vie pour notre relation avec Dieu. Et là, pendant le temps de prière juste avant, j'avais vraiment cette image comme dans un désert, quand il y a le vent qui souffle, des fois ça met à la lumière des roches ou des pierres qui sont là, mais cachées sous le sable, et que le fait que ça souffle, ben, des fois on commence à voir par exemple une pointe ou quelque chose qui commence à sortir du sable. Et puis j'avais la pensée que, particulièrement pour la ville de Genève, le Seigneur voulait vraiment souffler dans cette ville pour venir déblayer, débroussailler, enfin, des choses qui ont été cachées, je pense. Ouais, qu'il y a des choses dans cette ville qui ont été particulièrement fortes quand même, et que le Seigneur veut nous rappeler aussi l'histoire de cette ville, particulièrement avec Calvin, mais juste l'histoire de l'Église dans cette ville aussi, et que le Seigneur veut vraiment, alors qu'il y a justement des manifestations pour la liberté, pour des ras-le-bol de la société, ce genre de choses, de l'autre côté, le Seigneur il veut aussi vraiment souffler pour rappeler ce qu'il y a eu dans cette ville et revenir montrer des choses qui étaient cachées, peut-être par la société ou même par l'Église, des fois, ou oubliées, pour revenir nous rappeler les bases, ouais, les fonds, ce qui a fait cette ville en fait.
J'aimerais prendre une série de messages avec vous cet été concernant la prière, et ce soir ça va être donc la prière en langue. J'aurais pu mettre un S entre parenthèses, parce que tantôt, Paul, une fois, il dit « si je parle en langue », et puis il met un S à langue, et puis des fois, il parle du « parler en langue » sans S. Donc voilà, il peut y avoir plusieurs langues. Et bien sûr, on va regarder un peu ce que c'est. Ça va être un rafraîchissement pour certains, ça va être peut-être une découverte pour d'autres. Et on va bien sûr s'attacher à ce que dit les Écritures par rapport à cela. Et c'est vrai que ça a gêné ce texte-là qu'on va lire dans l'histoire, parce que ça peut mettre mal à l'aise. Il y a un côté mystérieux, spirituel, donc pas maîtrisable, forcément. Mais on va regarder ce que disent les Écritures par rapport à la prière en langue et ce que, pour notre vie, ça peut nous apporter ou ça devrait nous apporter. Un jour, il y a un ami pasteur qui disait « J'ai remarqué que si je prie à peu près 15 minutes quotidiennement en langue, parler en langue, ça change mes journées. » Ah, et 15 minutes, c'est pas beaucoup finalement. Hein. On pourrait se dire sur 12 heures ou 14 heures où on est éveillé, je sais pas, ça dépend des personnes. Eh bien, un quart d'heure, c'est pas énorme. Et c'est vrai que ça change la vie quand on se met à être saisi ou guidé ou inspiré plutôt par le Saint-Esprit et qu'il nous donne cette langue, ce parler en langue qui est extraordinaire, qui est mystérieux quand même, mais qui est spirituel. Et on va donc regarder ça ensemble. Est-ce que ça serait possible, Chantal, de tourner l'ordi? Comme ça, je peux voir ce qui va se projeter. Oui, j'ai tout. Ouais, c'est bon. Si tu le poses à l'envers, ça va jouer. Voilà. Très bien. Super. Avant d'entrer dans le vif du sujet, je fais un peu de pub. Sur le site internet de la paroisse, je commence à mettre des interviews. Donc, allez, la dernière interview qui est... c'est sous l'onglet... Sous l'onglet enseignement, ici vous cliquez là-dessus, puis vous avez gentiment des ressources qui arrivent. La dernière interview, c'est une interview de Éric Tandon, qui était là il y a 2 semaines parmi nous, qui a juste participé à une réunion de prière, et qui est un missionnaire et responsable de louange, de prière et de louange. Donc c'est son don, c'est pas une mission, on va dire, d'évangélisation, mais c'est une mission qu'il dirige, qui est liée à la prière, les maisons de prière et d'adoration. Puis voilà, il y a plusieurs sources que je mets aussi. Donc allez voir là-dessus, c'est en lien avec la prière, avec le thème de cet été un petit peu. Et puis ça est toujours encourageant, enrichissant de voir ce que disent certains. quelqu'un d'autre que votre pasteur, que vous avez l'habitude d'entendre, hein, qui vous casse les pieds peut-être, des fois. Bref, alors s'il faut casser les pieds, je vais le faire encore, et j'espère de manière inspirée. Alors, renouvelons-nous avec 1 Corinthiens 14. On va lire les versets 1 à 5. Recherchez l'amour, aspirez aussi aux dons spirituels, mais surtout à celui de prophétie. Surtout, pardon, à la prophétie. En effet, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu. Car personne ne le comprend, et c'est en esprit qu'il dit des paroles mystérieuses. Celui qui prophétise, au contraire, parle aux hommes, les édifie, les encourage, les réconforte. Celui qui parle en langue s'édifie lui-même, alors que celui qui prophétise édifie l'Église. Je désire que vous parliez tous en langue, mais encore plus que vous prophétisiez. Celui qui prophétise est plus important que celui qui parle en langue, à moins que ce dernier n'interprète pour que l'Église reçoive une édification. Voilà, mon thème, donc, c'est la force qui vient de la prière en langue, du parler en langue. Ce soir, c'est des synonymes. Petite différence peut-être, mais il y a quand même la même idée qui est là. C'est que le croyant rempli de l'esprit, que nous sommes tous appelés à être, eh bien, va déborder dans sa prière et avec une prière en langue qui est là, qu'elle soit émotionnellement agitée ou pas. Hein, je peux prier en langue, vous aussi, ceux qui prient en langue, de manière calme ou de manière euphorique. C'est un peu les choses là qui sont décrites aussi dans la parole de Dieu. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire par rapport à ce texte ? Alors, plusieurs choses. La première, c'est qu'il est question d'expérience. Quand on parle du baptême de l'Esprit-Saint, c'est une expérience, pas unique, mais continue. Hein, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive, c'est du présent qui doit toujours là. La source n'est pas tarie. La personne du Saint-Esprit ne se tarit pas. Mais c'est une expérience, et comme on dit, on apprend en école biblique, c'est important. En fait, ton expérience n'est pas la norme. Ce que tu vis avec l'Esprit-Saint, tout le monde ne doit pas le vivre de cette manière-là. C'est comme la conversion, il y a une conversion, n'est-ce pas ? C'est ta conversion, c'est ton témoignage personnel. Comment Christ a pu t'amener à lui ? Eh bien, chacun, on a un témoignage différent, plus ou moins différent. Et on ne peut pas dire que toute conversion doit être à chaque fois la même. Tout le monde ne s'est pas converti en tombant par terre, en voyant Christ directement et en entendant la voix, comme l'apôtre Paul, Saul de Tarse. Mais ça arrive quand même. Voilà. Et la conversion, ça reste bien sûr la norme de foi, passer par la repentance, mettre sa foi en Christ, dans le sacrifice de Christ à la croix, à recevoir le pardon de ses péchés, ben ça c'est la norme. Après, le comment ou le contenu, le contenant, la forme extérieure, importe peu. Comment ? Le contenant, voilà. Qu'importe le flacon, pourvu qu'on ait l'ivresse, dit les proverbes. Je le détourne. Hein. Je le sanctifie au nom du Seigneur. Mais ça, c'est important. Voilà. Alors, j'ai mis des pots, n'est-ce pas, qui sont censés être différents, mais il n'y en a qu'un différent. Voilà, bref, l'expérience n'est pas la norme. Vous comprenez maintenant ce que ça signifie. Alors, bien sûr, je me souviens qu'il y avait en Chine une certaine contrée où ils n'avaient qu'une portion de Bible, puis la seule portion de Bible qu'ils avaient, c'était la conversion de l'apôtre Paul. Et ils pensaient qu'il fallait que tout le monde tombe par terre et se convertisse en voyant Jésus. Tant que tu n'avais pas vécu ça, tu n'étais pas converti. Alors c'était un défi. Bon, un jour, ils ont eu une Bible entière, ils ont vu et ils ont été enseignés correctement. Voilà, l'expérience n'est pas la norme, et particulièrement quand on parle du baptême de l'Esprit-Saint. Il faut toujours voir le contexte d'un passage, 1 Corinthiens 14, ce qui précède, c'est 1 Corinthiens 13, vous le savez, l'amour. Par excellence, quelle belle définition de l'amour qui est là. On ne se lasse pas de cette définition de l'amour qui commence par « si je parle les langues des hommes, et même celles des anges », là ça fait référence au parler en langue, « si je n'ai pas l'amour, je suis un cuivre qui résonne, une cymbale qui retentit, on peut parler en langue et puis être sec ». Parce qu'on n'a pas l'amour, on n'a pas le souci d'édifier son frère ou sa sœur. Et puis 1 Corinthiens 12, eh bien évidemment, c'est la liste des dons du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit veut manifester dans la rencontre publique, ce soir, ou d'autres circonstances, eh bien, il veut manifester ses dons. C'est un rappel qu'on appelle charismata, dans le grec ancien, qui veut dire petite grâce. Un don spirituel ne restera jamais qu'une petite grâce par rapport à la grande grâce du salut qui est en Jésus-Christ, de la vie éternelle, n'est-ce pas ? On peut avoir la vie éternelle sans parler en langue. D'accord, hein ? Certains croyaient le contraire. Bien sûr, mais le parler en langue ou le baptême du Saint-Esprit fait partie de la grande grâce, ou fait partie du salut. Ce n'est pas un plus que Dieu nous donne, ça fait partie. Donc si ce soir, quelqu'un n'est pas baptisé du Saint-Esprit, ne prie pas en langue, n'a pas encore reçu ça ou l'a étouffé, ça fait partie de ton salut. On va réanimer tout ça. Il faut venir à Jésus-Christ, à sa personne, pour que ça puisse couler à nouveau. Vous êtes d'accord avec ça ? Amen, hein ? On est d'accord que la vie de l'Esprit doit couler, ça fait partie de la grâce de Dieu. Si l'enseignement de certains peut être erroné par rapport à la vie de l'Esprit, il n'en reste pas moins que le Seigneur désire que nous soyons remplis du Saint-Esprit. C'est ça l'essentiel. Lorsque mon papa a reçu le baptême de l'Esprit-Saint par l'imposition des mains, il était tout tranquille dans un fauteuil. Le pasteur a prié pour lui et en fait, il s'est mis à chanter en langue. Il s'est mis à chanter en langue, voilà. C'était pas un parler, il a chanté dans l'Esprit qui était là. Et tout tranquillement, tout tranquillement. C'était pas démonstratif, mais tout tranquillement. Voilà, pour d'autres, ça peut être autre chose. Mais ce qui compte, c'est qu'on soit rempli du Saint-Esprit. Et c'est ça que Jésus veut nous dire. Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive comme ce jeune homme qui a soif, on dirait, n'est-ce pas ? Alors, qui a soif ce soir ? Quelqu'un a-t-il soif ? Il y a eu ce chant-là, il y a 20 ans. Quelqu'un a-t-il soif ? Yes ! Puis ça hurlait dans les rencontres. Quelqu'un a-t-il soif ? J'ai soif, Seigneur, nous avons soif de toi. Donne-nous ton Saint-Esprit 2019, cuvée 2019. Hein ? Pas cuvée 96 ou 86 ou même 2018, mais la 2019, le millésime du ciel. Le Saint-Esprit est heureux lorsqu'il trouve une personne assoiffée de Jésus. Et ça, c'est bon de se le rappeler ce soir. Quand on a soif de la personne de Jésus-Christ, alors il envoie son Saint-Esprit ou il donne la portion, peut-être en proportion de notre soif, en tout cas en partie. Mais notre foi est là pour dire, Seigneur, inonde-nous encore de ta présence. Le Saint-Esprit, bien sûr, est content quand il peut être dans un local, dans un lieu, mais... vous savez que certains, j'aime bien le Tour de France et le cyclisme, mais j'écoutais un bout de l'étape hier, la première étape du Tour. C'est intéressant parce qu'il y a sur la chaîne française, il y a un spécialiste de l'histoire et les lieux sont visités, la vue du ciel, c'est assez sympa. Et c'est tombé sur une abbaye en Belgique, donc on voyait l'intérieur de cette abbaye, etc. Puis il a dit une chose intéressante, je ne sais pas s'il y en a qui ont vu, mais il a dit... alors que c'était en ruines, des magnifiques ruines, il racontait l'histoire, 12e siècle, cette abbaye qui était extraordinaire. Puis à un moment donné, il dit, mais tout ça n'a servi qu'à la vanité des hommes. Et c'est vrai, quand même. On peut se réjouir de Saint-Pierre, de la cathédrale Saint-Pierre, c'est génial, elle est belle et tout. On monte sur la tour, mais bon, ça sert quand même qu'à la vanité, finalement. Parce que si c'est vide, si le Seigneur n'est pas là par sa présence... Voilà, ça passe. Mais par contre, quand il trouve, que ce soit sur le parvis ou tout seul à la maison, des cœurs assoiffés, le tien ou le mien, et qu'il peut le remplir à nouveau ou l'emplir pour la première fois, alors là, je crois que le Saint-Esprit se régale. Et puis, il met la surdose, le vin, n'est-ce pas, le meilleur, comme on disait. Le vin nouveau est meilleur. Non, l'ancien est meilleur, dit. Mais le vin nouveau est là et il veut le faire couler. Amen. Donc c'est bon de se rappeler ça. Il est intéressé non pas à remplir des lieux, mais des disciples. N'est-ce pas ? Et ça, c'est là aussi le bon ordre de la parole de Dieu. Une personne ne peut pas être remplie du Saint-Esprit si elle n'a pas fait le nettoyage et être une autre neuve, comme l'enseigne Jésus-Christ, c'est-à-dire un réservoir propre. Voilà, qui veut ce soir se laisser façonner par le potier ? La main divine façonne encore aujourd'hui, se laisser arroser, se laisser modeler, n'est-ce pas, et se laisser remplir, parce qu'un vase est là pour être rempli. 1 Corinthiens 14, regardons le texte. Le texte de 1 Corinthiens 14, je pense, traite d'une question qui a été probablement envoyée à l'apôtre. Qu'est-ce que tu penses, qu'est-ce qui est important ? Est-ce que c'est de parler en langue, comme on le fait à Corinthe ? dans l'espace public, ou alors est-ce que c'est de prophétiser ? On a l'impression qu'il y avait un clivage dans cette église. D'un côté, les parleurs en langue, puis d'un autre, les prophètes, ou ceux qui prophétisaient. Et les prophètes disaient, c'est plus important de prophétiser, c'est évident. Et ceux qui parlaient en langue, peut-être, étaient enflammés et encore plus démonstratifs. Mais non, la prière en langue, ça vient vraiment du ciel. Regardez, je parle en langue, je ne comprends pas ce que ça veut dire, mais ça vient du ciel. Alors, qu'est-ce que dit l'apôtre Paul par rapport à ça ? Je ne sais pas ce que vous votez, vous. Votez. On va voter. Non, bien sûr. Mais on va regarder 1 Corinthiens 14 qui rétablit les choses, qui met le balancier au bon endroit. Et Paul va dire, bien sûr, dans ce texte, « Je désire que vous parliez tous en langue. » Donc, ah, wow. Alors, ceux qui parlent en langue applaudissent des deux mains. Et puis, c'est quand ils disent, « Mais c'est plus important d'édifier l'Église et le rassemblement par la prophétie. » Alors, ceux qui prophétisent, « Ouais, ils brandissent les bannières, vive la prophétie. » Les deux sont évidemment importants. Mais dans l'espace public, eh bien, le plus important, c'est la prophétie. Mais je ramène mon thème ce soir, c'est que la force de la prière en langue. On va voir à quoi ça sert, cette prière en langue, ou se le rappeler. Donc, certains pensaient que le parler en langue était le don spirituel le plus important. Et rappelez-vous, hein, ils n'avaient pas le Nouveau Testament, hein, pas lu 1 Corinthiens 14, quand même. Mais dans ce passage, Paul leur donne des clés pour leur vie spirituelle. Qu'est-ce qu'il nous dit ce soir ? Premièrement, le parler en langue, c'est parler à Dieu. Verset 2. Relisons-le. En effet, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu, car personne ne le comprend, et c'est en esprit qu'il dit des paroles mystérieuses. Ben oui, voilà. Revenons un peu les pieds sur terre. Le parler en langue, en fait, on parle à Dieu. Et quand on parle en langue, Dieu comprend directement, sans traduction, parce que c'est un langage qui est spirituel, puis qui est inspiré par lui-même, par le Saint-Esprit, qui est Dieu. Et donc, c'est comme si on est devant le trône de Dieu, directement, seul à seul avec lui, et priant en langue. Eh bien, c'est intercéder, c'est rendre grâce, c'est louer Dieu aussi pour qui il est, la Pentecôte, avec la xénoglossie, comme on appelle ça, c'est-à-dire un parler en langue terrestre, mais c'est glorifier Dieu, et c'est parler à Dieu. Et donc, il ne faut pas se priver de parler à Dieu en esprit, mais c'est quand même, c'est bon de se rappeler, personne ne le comprend, si tu pries en langue, je ne vais pas te comprendre. Rarement, on peut comprendre, enfin rarement. Ça peut arriver quand tu as ce que les théologiens appellent, pentecôtistes, la xénoglossie, c'est-à-dire que c'est une parole qui est un langage de ce terre, ancien ou actuel. Voilà, et ça existe, et c'est ça qui est génial. Rappelez-vous, il y a quelques années, quand Monica Wagner était venue, c'était extraordinaire, elle est allemande, langue maternelle allemande, elle parle très bien l'anglais, mais elle ne parle pas français. Et de temps en temps, son parler en langue, c'est du français. Ça, c'est génial. Pas besoin d'interprétation, là. Tu vois, ça va même plus loin que le texte. Mais c'est extraordinaire. Je me souviens, dans la prière, elle avait dit, dans son parler en langue, « Seigneur, je suis à Genève, j'ai une parole pour Genève. » Moi, je dis, elle parle français, mais non, elle ne sait pas parler français, à part bonjour, comme une touriste, mais rien de plus. Elle parlait en langue, en français, de temps en temps, puis après, il y avait un autre langage qui était là. Mais ça reste néanmoins ce que nous disons, eh bien, personne ne le comprend, c'est des paroles mystérieuses. Mais ce n'est pas parce que c'est mystérieux qu'il faut se taire. Ce n'est pas parce que c'est spirituel que dire, Seigneur, je ne maîtrise pas ça, je me tais. Certains ont pensé ça, donc Dixit, ce que tu rappelais, les pasteurs genevois qui ont dit on ne veut pas des excès, comment ils appelaient ça, je ne sais plus, au temps de la révolte des Huguenots. Il y avait un terme spécial. Enfin bref, si on lit ces textes, ce qui s'est passé au XVIIe siècle, c'est extraordinaire, au point même que des petits-enfants prophétisaient, des enfants de 2 ans, prophétisaient une autre langue et d'autres choses extraordinaires. Donc c'est non maîtrisable. Et quand on veut être baptisé du Saint-Esprit la première fois, il y a la nécessité que tu t'abandonnes, que tu lâches prise. Le courant va t'emporter, ben faut lâcher, quoi, faut se détendre un peu, et puis on laisse même beaucoup, et on laisse le Saint-Esprit couler et jaillir dans notre cœur. Le Saint-Esprit ne vient pas, enfin le parler en langue ne vient pas de là, habituellement. Bon, je sais qu'il y a une personne ou deux, c'est arrivé qu'elle voie des mots. Mon frère, c'était comme ça, mes frères. Il a vu des mots écrits, il a lu les mots, puis paf, il est prié en langue et il s'est lâché comme ça dans l'esprit. Mais c'est, voilà. Mais c'est quand même pas intellectuel, c'était pas cérébral, ça vient du cœur. Le chant en langue vient du cœur. On pourrait du reste, dans les chants en langue, s'il n'y a pas de nouvelles personnes, y aller, quoi. Franchement, se lâcher dans la prière en langue et dans les chants en langue, je crois que ça serait, on serait vraiment édifiés. La prière, il faut se rappeler quand même, c'est la base de la vie chrétienne. Bien sûr, on peut prier en français, comme dit Paul, mais on peut prier aussi en esprit et prier en langue. Une église qui ne prie pas ou un chrétien qui ne prie pas, c'est un chrétien dont le réservoir est sec et la batterie est à plat. Donc il faut recharger tout ça et se laisser remplir de la personne du Saint-Esprit. La prière en langue, c'est être en communion avec Dieu. Vous savez, je pense que un chrétien qui se convertit, il a l'Esprit Saint, comme dit l'apôtre. Hein. L'Esprit Saint est là. Mais on est appelé à être rempli du Saint-Esprit. Et l'expérience est différente. Et je crois que c'est vraiment quand j'ai été rempli du Saint-Esprit que j'ai réalisé la proximité possible avec Jésus. Et Jésus va dire dans Jean 14, verset 20, alors 1 Corinthiens 13, 13, il est parlé de la communion, ou de la communion du Saint-Esprit, de l'amour de Dieu et de Jésus-Christ, la grâce qui est en lui. Mais Jean 14, 20, Jésus dit à ses disciples, en ce jour-là, et je pense qu'il parle de la Pentecôte, ils sont déjà disciples, mais ils ne sont pas remplis du Saint-Esprit, ils ont l'Esprit sur eux, mais il y a une petite différence. À la Pentecôte, ils seront remplis. En ce jour-là, vous connaîtrez que je suis en mon Père, que vous êtes en moi et qu'on est un ensemble. En fait, dans le baptême du Saint-Esprit, il y a cette unité spirituelle qui est extraordinaire. Ça ressemble un petit peu au mariage où il est dit « les deux le seront une seule chair ». Il y a comme une unité dans le baptême du Saint-Esprit, une unité spirituelle, une unité d'âme, une unité de corps. Certains vivent tellement une expérience forte qu'ils sont vraiment comme ouais, un avec Dieu et ils passent la nuit en prière sans voir l'heure qui tourne. Et le Saint-Esprit est là vraiment et donne un remplissage extraordinaire. Ils sont toujours maîtres d'eux-mêmes, mais c'est extraordinaire la visitation du Saint-Esprit qui leur est donnée ou qui nous est donnée. Et on reconnaît donc le fait que quand on est baptisé du Saint-Esprit, on est un avec le Seigneur. Ne priez pas 10 secondes en langue. Mais plus que ça, bien sûr tu peux le faire, il n'y a pas de problème, mais plus que ça, laissons-nous remplir. Des fois on se laisse remplir plein d'autres choses, on est chargé, fatigué, mais laissons le Saint-Esprit nous remplir. J'ai l'impression que quand il vient nous remplir, quand on laisse le réservoir se remplir petit à petit, la jauge qui monte de notre foi, on s'élève, les fardeaux sont arrachés de nos épaules et on est rempli, rempli, rempli de sa présence. Et ça c'est extraordinaire. Tout à l'heure on va vivre cela ensemble. Alors, le parler en langue, c'est parler à Dieu. 1 Corinthiens 14, 2, on a lu tout à l'heure ce verset, c'est un langage spirituel. Dieu est esprit. C'est l'apôtre Jean qui dit ça. Hein. Dieu est esprit. Dieu est esprit. On est dans le monde invisible, spirituel, qui est réel, mais Dieu est esprit. La vie est là. Alors, moi, je ne vois pas les anges là, mais Seigneur, ouvre mes yeux. Mais je suis sûr qu'il y a des anges qui sont là. C'est dans le monde spirituel, ils sont là, ils sont présents. Peut-être il y a une myriade, on ne sait pas. Attendez. Puis tous ceux qui passent à côté du temple, ils disent, mais oh, il y a du monde ce soir. Ben oui, il y a plein. On est dans le monde invisible et spirituel. Et on a tous cette portion de nous qui est spirituelle. L'apôtre Paul parle du cœur, ou alors des entrailles, ou alors de l'esprit, hein, que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient sanctifiés. Notre esprit, on est régénéré spirituellement, renouvelé. Et la dimension du baptême de l'Esprit Saint concerne cette dimension-là, invisible mais importante. C'est au point que l'apôtre Paul va dire, mais je ne sais pas si j'étais emporté au troisième ciel, je ne sais pas si c'est avec mon corps ou pas. Donc il y a cette notion de spiritualité qui est à découvrir ou à redécouvrir et qui est très intense. Pourquoi quand il y a une personne qui décède, chrétienne, tout d'un coup elle s'émerveille, quand c'est l'heure du départ, elle s'émerveille, bah, tout lui est ouvert. Hein, elle voit le monde invisible comme nous ne le voyons pas ou peu. Et puis c'est ce monde qui est extraordinaire, qui est là, qui nous entoure, dont il faut être conscient. Pourquoi des fois, quand il y a des grandes périodes de danger, certains chrétiens traversent avec assurance et les mondes ténèbres sont aveuglés, les dédouaniers sont aveuglés, les opposants sont aveuglés. On est dans le monde spirituel extraordinaire, hein, là, qui est le nôtre. Et c'est, l'ennemi n'a rien à faire, quoi. C'est nous qui sommes vainqueurs dans ce domaine-là. On est esprit, on est éternel, rendu éternel par la vie éternelle qui est en Jésus-Christ. Alors, explorons ces choses-là. Du reste, dans une épître, Paul dit ceci, il dit « Mais je suis présent avec vous en esprit, quoi, comment tu fais, il n'y a pas Internet, il n'y a pas Wi-Fi, il n'y a pas les caméras. Mais son esprit peut naviguer, on pourrait dire ça comme ça, où il ressent, où il vit les choses, même si ce n'est pas son église, ben il y est quand même, il est présent, il voit le bon ordre qui règne. Voilà, Dieu est esprit, et du reste, le Saint-Esprit est appelé Saint-Esprit. Voilà, petit rappel important. Quand on prie en langue, on dit des paroles mystérieuses, c'est de quoi surprendre les non-initiés. Le texte biblique parle de non-initiés quand il y a des croyants qui arrivent, mais qui ne savent pas ce que c'est. Qu'il y a des prophéties, tiens, c'est quoi ? J'ai jamais entendu parler de ça, voilà. Et puis, les non-croyants aussi qui disent, mais c'est... Alors, on peut être pris pour des fous si on ne respecte pas le cadre biblique qui est là pour l'exercice en public. Chez vous, si vous voulez être rempli de l'Esprit-Saint, rouler par terre, faire la chandelle, tout ce que vous voulez, prier en langue, léviter en Jésus-Christ, je ne sais pas si ça existe, mais voilà. Eh bien, pourquoi pas, mais c'est chez vous. Après, il y a un petit cadre à respecter dans l'espace public qui est simplement une forme de respect, mais une libération quand même des dons de l'Esprit qui est notamment dans le domaine de la prophétie. Je passe. Donc, la prière en langue, c'est d'être un avec Dieu. Seigneur, j'ai envie d'être un avec toi. Baptise-moi ou rebaptise-moi. Remplis-moi de ton esprit. Le parler en langue, c'est bien sûr, comme dit le texte, s'édifier soi-même. 1 Corinthiens 14, 4, c'est un grand verset, j'ai mis qu'une partie. Celui qui parle en langue s'édifie lui-même. On en voit tout de suite l'utilité. Si quelqu'un, un chrétien, vous dit, mais pourquoi, ça sert à quoi de parler en langue ? Sautez dans 1 Corinthiens 14, 4 avec lui. Mais écoute, c'est pour t'édifier. Est-ce que tu as besoin d'être édifié dans ta vie avec Dieu ? Non, ça va, je vais bien. Bon, bah, tant pis. Tu passes à côté de ce que Dieu veut pour toi. Mais si tu parles en langue, tu vas t'édifier toi-même. Qu'est-ce que ça veut dire, s'édifier ? Ben, rappel aussi là, c'est bâtir. Édifier, c'est bâtir. On a besoin, j'ai besoin que ma vie spirituelle, et encore plus que vous, que je suis pasteur, j'ai besoin vraiment d'édifier ma vie spirituel, que ça grandisse, ça bâtisse sur du solide dans ma vie, mais aussi un synonyme, c'est créer. C'est intéressant ça, en fait, quand tu pries en langue, tu vas créer quelque chose. Tu crées peut-être la foi, ou tu la renouvelles, tu crées la pensée de Dieu en toi, tu crées vraiment quelque chose qui n'existe pas, quelqu'un disait dans sa prière tout à l'heure, hein, il a créé, Dieu a créé quelque chose à partir de rien du tout. La nouvelle naissance, il crée à partir de rien. Ce monde qu'on voit, eh ben, c'est créé à partir de rien du tout. Et quand tu parles en langue, tu crées quelque chose. Tu crées peut-être l'espérance. Seigneur, dans cette situation, je ne vois rien, je n'arrive pas à croire comme il faut. Eh bien, je vais prier en langue. Ben, quand même, il y a la vie qui coule. Et après, tu chantes en langue, tu chantes Alléluia et tu reprends des vieux chants et des nouveaux chants. Tu crées des chants nouveaux, hein ? C'est ça qui est génial. Si vous saviez comment je chante merveilleusement quand je suis tout seul, je crée des chants. Je ne voudrais pas les chanter ici, mais parce que voilà, on n'a pas tous les dons. Mais créer quand même, ça crée quelque chose. Peut-être des artistes chrétiens, quand ils prient en langue, eh ben, ils voient des choses dans l'esprit, ils créent, ils vont... ou alors l'idée est déjà là. Je rappelle peut-être l'exemple de l'architecte Francis, hein, qui est dans la communauté, qui des fois se réveille la nuit avec une idée. Je pense qu'il y a une idée de l'esprit qui est là. Il va créer le bâtiment dans sa tête d'abord, le dessiner ensuite, le calculer après, et après le voir peut-être là. Et c'est extraordinaire. Dieu travaille comme ça. Il crée dans ta vie quelque chose. Dans votre travail, pour ceux qui sont actifs, là, bien, laissez-vous renouveler. Peut-être vous pouvez améliorer les choses à votre travail, voilà, amener le plus, hein, le sel, le grain de sel qu'il faut, nécessaire, ou dans votre entourage, créer quelque chose. Alors, bien sûr, quand on parle de vie de l'Esprit-Saint, il faut reconnaître aussi sa faiblesse, ses limitations, ses manquements. Romains 8, 26 nous parle de faiblesse, et notamment dans le domaine de la prière. De même, je crois que ça commence comme ça. Hein. L'Esprit aussi nous vient en aide dans notre faiblesse. En effet, nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières, mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs que les mots ne peuvent exprimer. Là, on a l'explication de la prière aussi en langue, de la prière dans l'Esprit. Quand nous prions, on laisse et on permet au Saint-Esprit de venir en aide à notre faiblesse. Comment prier par rapport à la manifestation qui s'est passée hier dans les rues de Genève? Comment prier par rapport à tel frère, telle sœur? Des fois, on ne sait même pas qu'il y a un besoin. Bien, on prie dans l'Esprit, et si on laisse la place, encore une fois, au Saint-Esprit, on reconnaît qu'on est faible, alors il va nous inspirer. Et c'est tellement génial quand un frère, une sœur est inspiré dans sa prière parce que ça édifie toute la communauté. Alors laissons l'Esprit de Dieu inspirer nos prières. Moi, j'aime beaucoup quand il y a ces temps de prière où on laisse l'Esprit de Dieu, ben voilà, à la réunion de prière, on laisse l'Esprit de Dieu, groupe de maison et autres, la prière, elle est édifiante. Tout d'un coup, il y a quelque chose qui retient notre attention dans la prière du frère ou de la sœur. Pour bâtir, il faut nettoyer, préparer le terrain, abandonner peut-être toute croyance qui serait erronée. Certains manifestent pas le parler en langue parce qu'ils ont appris que c'était pour avant. C'était peut-être pour certains au XVIIe siècle, pour d'autres encore au 1er siècle. L'Église en avait besoin, ils n'avaient pas la Bible. Non, la Bible nous dit que Dieu veut nous remplir tous du Saint-Esprit. Alors il faut faire place nette, il faut nettoyer vers chez nous. Il y a un terrain qui est en train de devenir immeuble. Il y avait une école avant sur ce terrain, une école provisoire, une école des serves. Et puis, à un moment donné, on a appris que dans les nouvelles de la commune, que ça allait se construire. Alors, ils ont, pendant un temps, il n'y avait rien du tout qui se passait. Et puis après, les bâtiments de l'école ont été enlevés, ces bâtiments provisoires. Le terrain a été nettoyé. Je pense qu'ils ont fait comme ça, je n'ai pas tout vu. Et puis, à un moment donné, ils ont fait place nette. Et pendant longtemps, il n'y avait plus rien. Il n'y avait ni chenilles qui traînaient sur ce terrain, ni tuyaux, ni rien du tout. On se dit, tiens, ça vient quand ces travaux? Puis le feu vert, je pense, a été donné. Et ils ont commencé à poser des pierres, n'est-ce pas? Avant, il y a eu les grues, etc. Toutes les machines qui étaient là. Ben, notre vie spirituelle, c'est un peu pareil. Pour recevoir le Saint-Esprit pleinement, il faut faire place nette. Il faut enlever les soucis. Faut enlever les fardeaux, faut enlever peut-être les fausses croyances, faut enlever ce que ce chrétien vous a dit puis qui vous obsède. C'est pas pour toi le parler en langue, c'est pour les ministères ou je sais pas ce qu'on vous a pu vous dire, mais c'est pour toi. Fais place nette et le Saint-Esprit va pouvoir édifier quelque chose. Alors ce soir, on va faire place nette, n'est-ce pas? Nettoyer. Et faire place nette afin que cette prière en langue puisse jaillir de nos vies comme le Seigneur l'entend. Oui, la prière en langue, c'est bâtir, c'est créer ta vie, tout simplement, ta vie. Notre vie spirituelle qui doit atteindre un plein potentiel, qui est libérée. Il y avait un serviteur de Dieu qui disait, avant les réunions, même pendant les réunions, je prie en langue. Parce que vraiment, ça ouvre aux autres dons spirituels. C'est ce don des langues qui nous est donné, qui est à disposition, on peut dire ça comme ça. Hein, les autres dons ne sont peut-être pas autant à disposition de l'Église ou du croyant, mais que la prière en langue. Et ta prière en langue, elle est à disposition. Tu peux mettre en route. S'il y en a qui sont bloqués avec ça, ça peut arriver, hein, il y a des blocages, ou alors qui n'ont pas ou qui n'osent pas, ben on va prier tout à l'heure pour cela. Troisième et dernier point, donc on a dit la prière en langue, c'est bâtir ta vie. La prière en langue, c'est être un avec Dieu. La prière en langue, elle est pour les croyants. Elle est pour les croyants. Il faut peut-être, c'est tout bête de dire ça, mais on va voir ce que ça veut dire. Qui voudrait dire le verset 5? Lire le verset 5 pour me reposer. Allons-y.
Je désire que vous parliez tous en langue, mais encore plus que vous prophétisiez. Celui qui prophétise est plus important que celui qui parle en langue, à moins que ce dernier n'interprète. Pour que l'Église reçoive une édification.
Merci. Je désire, et ça on peut mettre ça directement dans la bouche de Jésus, c'est pas Paul, hein, c'est Paul inspiré, mais je désire que vous parliez tous en langue. On est dans le cadre de l'exercice public, là quelqu'un qui vient, qui connaît rien, puis si on parle tous en langue et il dit mais qu'est-ce qui se passe? Alors il peut tomber par terre, c'est vrai, hein. Mais il peut se dire aussi, je suis tombé chez les dingues. Donc Paul cadre un petit peu et dit, je désire que vous parliez tous en langue. Du reste, il dit, hein, je parle en langue plus que vous tous. En tout cas, depuis plus longtemps que vous, peut-être ça veut dire ça. Hein. Voilà, mais je désire que vous parliez tous en langue, mais dans l'exercice hein, public, que vous prophétisiez. Dieu veut qu'il y ait des prophéties parmi nous. Il y avait une pensée tout à l'heure, aussi dans les prières qui étaient là, mais ça doit encore grandir. Celui qui prophétise est plus important que celui qui parle en langue. Pourquoi ? Parce qu'il y a édification, consolation et encouragement. Si je prie en langue et qu'il n'y a pas l'interprétation, voilà, il manque quelque chose. Donc quand il y a parlé en langue, on doit s'attendre à ce qu'il y ait interprétation. Et prions pour ça. Prions. Et des fois, ça peut être un parler en langue qui est long, et puis l'interprétation est courte. J'ai vu ça une fois. Mais c'était l'interprétation. Des fois, ça peut être le contraire. Il n'y a pas de norme aussi là, par rapport à ça. Et surtout, ne mettons pas une norme là où la parole de Dieu n'en met pas. Donc, je désire que vous parliez tous en langue. Ce parler en langue fait partie du pacte du salut. Jacques 1,5 nous dit « Dieu donne à tous, libéralement, sans faire de reproches, c'est question de la sagesse, mais on peut l'appliquer ici parce que ça révèle à tout, parce que ça révèle le cœur de Dieu. Dieu donne à tous, libéralement, sans faire de reproches. À combien plus forte raison ceux qui demandent l'Esprit Saint, hein, au Père, recevront-ils l'Esprit Saint ?» Je mélange à ceux qui lui demandent. Voilà. Mais Dieu, je crois que c'est Luc 10-13, quelque chose comme ça. Voilà, Dieu donne le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent. Dieu manifeste ses dons à ceux qui le lui demandent. Veux-tu édifier l'Église ? Demande au Père d'être un instrument d'édification pour la communauté. Demande-lui, Seigneur, utilise-moi s'il te plaît. J'ai à cœur, j'aime mes frères et sœurs, je veux les édifier. J'aime aussi les non-chrétiens, je veux les édifier, je veux que tu les visites à travers moi. Mais ton Église, puisque c'est le contexte ici, accorde-moi de manifester simplement tes dons pour cela. Amen. Ça, c'est la bonne motivation. À Corinthiens 14-18, Paul, enfin c'est à retenir, hein, 14-18, « Je désire que vous parliez tous en langue. » Voilà, je parle en langue plus que vous tous, il dit dans ce verset. « Qui veut compétitionner, faire la compète avec Paul. »
Le « mais » est très important. Le «
mais »
C'est ce qu'il dit Paul. Plus que vous tous.
Oui.
Mais, quand je suis dans l'assemblée,
oui,
je préfère dire trois paroles claires.
Oui. Voilà, c'est ça. Et on est d'accord, c'est ça. C'est exactement la pensée. Voilà, parler abondamment en langue. Alors, il faut se donner le temps pour ça, c'est vrai. Mais on a l'avantage de pouvoir prier en langue en tout temps. Discrètement, ça peut se faire. Et ça peut se faire aussi dans l'assemblée ou chez vous, abondamment. Les obstacles, j'en ai un petit peu parlé, puis je vais terminer là. Quels obstacles peut-il y avoir au parler en langue ? Parce que c'est le thème de ce soir et de la force qui est à travers ce parler en langue. La crainte, qu'est-ce qui va m'arriver si je ne maîtrise pas ? La honte, si je suis saisi par l'esprit, est-ce que je vais danser tout nu comme Saul de Tarse, n'est-ce pas ? Mais je ne pense pas. Le Saint-Esprit est quand même respectueux, nous aime. Il ne veut pas nous mettre dans la honte, mais simplement, il veut nous remplir. Alors cette honte, on veut la mettre de côté, et je vous encourage à le faire. La crainte aussi, c'est non maîtrisable, donc on peut se dire, mais il faut que je maîtrise. Non, il n'y a pas besoin. Et puis, ça peut être encore une fois la satisfaction. Tout va bien dans ma vie spirituelle, je ne veux pas aller plus loin. Mais il y a encore tant de choses à découvrir, et notamment dans ce domaine. La prière en langue, c'est accueillir le don divin. Oui, le Seigneur nous fait des dons. Il y a ce parler en langue, cette prière en langue, ce cadeau qui est là. Et ce soir, si tu n'as pas reçu ce cadeau-là, laisse-toi remplir du Saint-Esprit. Demande-lui de te visiter ce soir, demain. Mais particulièrement ce soir, où réactivons cette prière en langue ensemble, sans crainte ni honte. Alors, qu'est-ce qu'on a dit ce soir ? La force de la prière en langue. La prière en langue, c'est être un avec Dieu. C'est la première chose, hein, la chose principale, être en communion avec lui. La prière en langue, c'est bâtir, c'est créer dans ta vie. Celui qui parle en langue s'édifie lui-même, c'est ça qui est à retenir. Et la prière en langue, c'est accueillir le don divin, le don du Saint-Esprit. Alors, je vous recommande la lecture de plusieurs ouvrages par rapport à cela. Allez voir au rayon pentecôtiste, pas d'autres rayons, mais au rayon pentecôtiste. C'est eux qui ont développé toute la théologie par rapport au baptême du Saint-Esprit. On peut citer Donald G., qui est une référence en la matière, qui vraiment parle des dons spirituels. Au baptême du Saint-Esprit aussi, il y a beaucoup qui ont écrit là-dessus. Donc voilà, référons-nous à ça. Rappelons-nous que c'est la parole de Dieu qui est la norme de foi, pas notre expérience, mais la parole de Dieu. Et vivons ces choses-là. Vivons à la présence du Saint-Esprit, émotionnellement ou pas, peu importe. Certains disent « Oh, j'ai eu des frissons et j'ai parlé en langue. » Mais tu peux parler en langue sans frissons. Pas besoin d'attendre la, le sentir, le sentiment. Mais voilà, ça peut être là. Et si Dieu nous fait ce cadeau, bah, tant mieux. Et gloire à son nom. Est-ce que c'est possible de jouer quelque chose ?